VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Il est 11h en temps universel. Bonjour, bienvenue. Une première au Niger où une trentaine de députés de l'opposition ont déposé ce mercredi une requête sur le bureau du président du Parlement et ceci pour demander la mise en accusation du président de la République Issoufou Mahamadou pour haute trahison. Correspondance à Niamey, Abdoul Razak Idrissa.
Les faits constitutifs de haute trahison de la part du magistrat suprême selon le texte des signataires sont de deux ordres. Premièrement, compromission des intérêts du peuple à travers l'affaire de la restitution des devises étrangères de près de 9 milliards de francs CFA saisies par la douane à l'aéroport de Niamey récemment et la signature d'un contrat léonien avec une des filiales du groupe français Areva pour l'exploitation de l'uranium. Deuxièmement, le soutien ou la caution de graves violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La mise en accusation du président de la République est votée par scrutin public à la majorité des deux tiers des députés composant l'Assemblée nationale. Reste à savoir si les signataires auront les 74 députés requis pour faire passer le texte. Reste aussi à savoir si la requête sera discutée vu le silence du règlement intérieur sur la procédure à suivre pour examiner une telle requête, une première dans l'histoire démocratique du Niger. Abdelrazak Idrissa, à Niamey pour VOA Afrique.
Au Burkina Faso, la commission d'enquête sur le putsch raté du 17 septembre a su avoir identifié commanditaires, complices et exécutant. Du coup, a annoncé aujourd'hui devant la presse le président de la commission. Ce rapport, dont le contenu n'a pas été dévoilé, avait été commandé par le gouvernement le 25 septembre pour situer les responsabilités, identifier les auteurs complices militaires et civils impliqués dans la tentative de putsch perpétrée le 17 septembre 2015. Au Nigeria, 36 ministres et secrétaires d'État, dont 7 femmes, ont prêté serment hier dans la résidence du président Muhammadu Buhari à Abuja. Monsieur Buhari a gardé le portefeuille du pétrole. Pour une réaction, Idriss Fall a joint Ali Buhari. Il est enseignant à l'université de Kessi, près d'Abuja.
Tout a écroulé avec le gouvernement de Jonathan Sou. La marmite était devenue une habitude. Donc maintenant, on veut s'écarter de cette tendance mafieuse.
L'autre défi, c'est Boko Haram. Mohamed Mansour Dan Ali sera à la défense. Est-ce que vous pensez qu'il pourra faire le travail?
D'après le président lui-même, il a choisi avec une concertation de son parti pour pouvoir allouer les ministères à chacun qui est compétent et capable. Donc, il va falloir les laisser au président pour voir si oui ou non il serait capable de bien diriger les affaires de ses ministères. Mais pour le moment, le président nous a assuré que les ministères sont bien répartis selon la compétence de chaque ministre.
Ali Buhari, professeur à l'université de Kessi, près d'Abuja. Le jeune rappeur guinéen soupçonné d'un viol visé par un mandat d'arrêt international a été arrêté et écroué hier à Conakry. Tamsi Touré a été arrêté et se trouve actuellement à la maison centrale de Conakry. Selon Boubacar Kassé, le porte-parole de la police, le suspect avait fui en Côte d'Ivoire voisine, avait indiqué le 4 novembre le ministre de la Justice, Cheikh Sako, lors d'une manifestation de femmes contre l'impunité des auteurs de violences sexuelles.
VOA Afrique, en direct de Washington.
La visite du pape François à la fin du mois de novembre en Centrafrique s'annonce risquée selon le ministère français de la Défense. La France lance un avertissement à peine voilé disant que Sangaris ne pourra assurer que la sécurisation de l'aéroport et fournir une capacité d'évacuation médicale en cas d'accident, mais ne pourra pas aller plus loin. Le président du Conseil national de transition CNT en République centrafricaine, Alexandre Ferdinand Nguende, n'a pas attendu pour relancer le débat sur le réarmement de l'armée nationale, les ex-FACA.
Le ministre de la Sécurité publique rejoint la position des forces vives de la nation, la position des représentants du peuple, qui estime qu'il faut aujourd'hui nécessairement impliquer les forces armées centrafricaines dans le processus de la sécurisation du pays.
Le ministre de la Sécurité n'étant pas le seul concerné par les élections ni la sécurité en Centrafrique, quel sera donc le rôle des forces internationales?
Ça a toujours été dit que les forces internationales sont venues en appui des forces de défense et de sécurité. Donc la question de sécurisation du pays revient d'abord aux forces de défense et de sécurité, et les forces internationales viennent en appui. Donc c'est ce qui a été dit dans les différentes résolutions des Nations Unies. Si nous voulons aujourd'hui organiser les élections dans des conditions apaisées, il faut nécessairement impliquer les forces armées centrafricaines.
Le président du Conseil national de transition de la RCA, Alexandre Ferdinand Nguindé, joint à Bangui par Pascaline Magalé. En Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbazogo a décidé de briguer l'année prochaine un nouveau mandat présidentiel de 7 ans. Son annonce de se représenter en 2016 divise les Équato-Guinéens dans un pays riche en pétrole, mais gangréné par la corruption, le chômage et la pauvreté. Écoutons ce qu'en pense le journaliste indépendant Samuel Obiang.
La Guinée-Équatoriale est aujourd'hui, jusque-là, un État policier avec un régime militaire. Donc, où la loi du plus fort et où la loi de celui qui détient l'arme, qui est au niveau de la Guinée-Équatoriale, ce n'est que les forces armées et de la sécurité, c'est la loi qui règne.
Et le problème de la corruption?
La corruption n'en parle pas parce que si la corruption part au sommet de l'État, ça descend vers le dernier fonctionnaire. Il n'y a personne à demander des comptes. Lorsque les plus hautes autorités du pays, elles-mêmes sont d'abord impliquées dans la corruption, la population est généralisée, la population est à tous les niveaux. C'est pourquoi les auteurs de corruption ne sont pas inquiétés.
Le journaliste indépendant Samuel Obiang, joint à Bata en Guinée équatoriale par Jacques Aristide. Le Conseil de sécurité de l'ONU va voter aujourd'hui, cet après-midi donc, une proposition de résolution française destinée à mettre fin à la violence au Burundi. Il est prévu dans le texte de cette résolution une condamnation des violences et une menace de sanctions contre les dirigeants burundais qui incitent à la violence. Par ailleurs, et selon des diplomates à New York, l'ONU pourrait dépêcher des casques bleus au Burundi si le calme ne retournait pas rapidement dans ce pays. En Afghanistan, des milliers de personnes ont marché hier à Kaboul pour dénoncer la décapitation de 7 civils, dont 2 femmes et une fillette, par le groupe État islamique. Les forces de sécurité ont tiré des coups de semonce pour empêcher les protestataires de forcer les grilles de la présidence. Les précisions de Bagasikura.
Les suppliciés des membres de la minorité chiite des Hazara avaient été enlevés il y a plus d'un mois. Leurs corps décapités ont été retrouvés dimanche dans la province méridionale de Zaboul. La nouvelle a déclenché une vague d'indignation dans le pays. Portant des cercueils, des protestataires ont défilé dans les rues de Kaboul sous une pluie glaciale avant de converger sur le palais présidentiel. « Abat les talibans, abat Daesh » criait-il en accusant le président Ashraf Ghani, son chef de l'exécutif Abdullah et leur gouvernement de n'avoir pas fait grand-chose pour libérer les victimes après leur enlèvement. Dans un discours à la télévision nationale, le président Ghani a appelé au calme, assurant qu'une enquête spéciale a été lancée pour traduire les auteurs du massacre en justice. De son côté, un porte-parole des talibans a confié à VOA que son groupe n'est pour rien dans la décapitation des 7 civils.
Et en Birmanie, le puissant chef de l'armée birmane a promis de coopérer avec le nouveau gouvernement formé par l'opposante Aung San Suu Kyi, sortie victorieuse des élections historiques la propulsant pour la première fois au pouvoir. Le chef de l'armée avait félicité mercredi Aung San Suu Kyi pour sa victoire. Elle a promis de se défaire de ce système une fois au pouvoir et nombre d'analystes s'inquiétaient de la réaction de l'armée à sa victoire aux législatives de dimanche. On revient à l'actualité africaine. En République démocratique du Congo, 2 militants d'un parti d'opposition arrêtés mardi à Lubumbashi ont été transférés à Kinshasa. Les 2 hommes connus sous les sobriquets de Zazou et de Kakoko font partie de 8 militants de l'Union nationale des fédéralistes du Congo arrêtés à Lubumbashi. L'armée avait affirmé que leur arrestation était liée à leur implication dans l'incendie de la maison d'un dissident de ce parti, ce que dément cette formation. Ces 2 militants ont été emmenés menottés à bord d'un avion à destination de la capitale Kinshasa. Gabriel Kyungu-Wa Kumwanza, le président de l'UNAFEC et de l'Assemblée nationale du Haut-Katanga, a confirmé leur transfert tout en dénonçant un acte arbitraire et éminemment politique. On termine avec du sport. Accusé de dopage généralisé, la Russie accepte de nommer maintenant un spécialiste étranger. Le ministère russe des Sports, Vitali Moufko, a annoncé la décision de Moscou à 2 jours d'une possible suspension de toute compétition d'athlétisme suite aux accusations de l'Agence mondiale anti-dopage. Jean-Roger Billon à ce micro, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous dans 50 minutes et ce sera avec Henri Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.